Cher Arsène Lupin. Le lendemain, nous commencions les fouilles dans les grottes, les catins, sous les vestiges du château. Évidemment, nous n'avons rien trouvé. Cela ne nous a pas empêchés de retourner en ces lieux de tous les enchantements 2 années de suite, en emmenant nos compagnes de l'époque, les pauvres, et en faisant de nombreux détours par les châteaux cathares, ces citadelles du vertige qui hantent cette région de pierre et de vent. Les années ont passé. Les fantasmes sur le trésor de Rennes et son légendaire ésotérique se sont dissipés sous le soleil de l'âge de raison. Néanmoins, cette histoire merveilleuse, ce conte de fées en plein rasesse, nous avait ouvert une porte sur un univers mystérieux, magique, tellement plus coloré, plus riche et plus intense que la banale réalité. Alors, c'est plus fort que nous. Périodiquement, nous allons faire un saut dans le village de Saunières. L'un vient de Paris, l'autre arrive d'Espagne, mais sitôt le pied posé à Rennes, la magie opère à nouveau. Une drogue douce. De la même manière, nous lisons parfois les publications sur le sujet avec une tendresse particulière, sans ironie ni moquerie. Leurs auteurs, érudits de bibliothèques, chercheurs de terrain, sont de véritables passionnés, encore saisis par l'enchantement de ce mystère unique, tout comme nous. La plupart du temps, les critiques littéraires ne semblent pas comprendre l'engouement de tant de lecteurs pour les thrillers dits « ésotériques », persuadés sans doute qu'une partie d'entre eux prend pour argent comptant ces récits de pure fiction. Notre imaginaire est d'abord celui de la jeunesse, ce monde perdu où tout semblait possible. Nous avons tous besoin de retrouver, au détour d'une lecture, cette part mythique d'enfance et ce goût vital pour le merveilleux. Pour notre part, cette apocalypse, qui représente une douce nostalgie de nos fascinations d'adolescents, est notre modeste pierre, à la taille quelque peu maçonnique, qui vient nourrir la fantastique histoire de Rennes-le-Château. En particulier avec l'apport d'un élément nouveau dans cette affaire, où il apparaît que l'un des instigateurs du légendaire de Rennes-le-Château, inventeur du fameux prieuré de Sion, Pierre Plantard, était franc-maçon. Éric Giacometti, Jacques Ravenne. Prologue. Inde, Bombay, parc de Chenantadi, coucher du soleil. 3000 perdus contemplaient l'immense écran rectangulaire, aussi noir qu'un monolithe de basalte. Au moment précis où le dernier rayon de lumière disparut, marquant l'entrée du monde dans les ténèbres, une voix grave surgit des 30 haut-parleurs disposés autour du site. « Om Padme Om » D'un seul élan, la foule hypnotisée scanda le mantra. « Om Padme Om !» Un coup de gong retentit dans la clairière. L'écran s'illumina soudain et un éclair balaya le parc. La masse vibrante des spectateurs cria de nouveau. « Om Padme Om !» La face bienveillante de Brahma apparut, le visage fardé de blanc, le front orné du point rouge de lumière. Exacte représentation des statues honorées aux 4 coins du pays. Les yeux gigantesques du Père des Dieux observaient les rêveurs avec amour et paix. Puis, la voix retentit encore, cette fois dans un hurlement. « Brahma !» Une série de coups de tonnerre éclata au-dessus des 3000 hommes et femmes aux bras levés. Des pulsions sonores émanant de synthétiseurs, tels des tambours à peau de métal, montèrent de toutes parts, encerclant la foule avide venue du monde entier pour assister à la Dark Rave. À côté de l'écran, dans une sorte de tour, bâtie sur un échafaudage flanqué d'une rangée de vigiles, 2 hommes et une femme étaient debout derrière un large pupitre. L'un d'entre eux, coiffé d'une casquette noire, s'activait entre des consoles numériques et une série de 3 platines. Le visage de l'homme était tendu à l'extrême. Son front humide de sueur, les veines de son cou étaient gonflées. Quant à ses pupilles dilatées, elles trahissaient une imprégnation d'extasie à forte dose. Il regarda le couple à ses côtés, guettant l'instant qui donnerait le signal de la transe collective. Brun, les cheveux rasés, le visage d'une beauté androgyne, le jeune homme posa sa main sur celle de sa compagne et la regarda en esquissant un sourire. La blonde gracile tourna son visage diaphane vers lui et hocha imperceptiblement la tête. Ils étaient les vrais maîtres de la cérémonie. Ils sentaient les pulsations de la foule comme si elle faisait partie de leur chair et comme si leur propre sang coulait dans ces corps étrangers. La jeune femme murmura « To the dark ». Le DJ n'attendait que ce geste et il tourna une petite molette d'aluminium située sur le clavier. Un soleil en fusion éclata sur l'écran. Les tambours devinrent frénétiques. Le son envahit tout. Le visage de Brahma se modifia d'un coup. Les orbites de ses yeux semblèrent se vider. Le visage se creusa. La bouche se transforma en un rictus. Toute bienveillance disparut de sa face. La blancheur de la peau se brouilla et prit une teinte noirâtre. Tels des serpents en colère, les boucles de ses cheveux se recroquevillèrent sur le front, laissant apparaître deux cornes répugnantes. Le dieu de toutes choses se transformait en un démon grimaçant.
« To the darkness !»
hurla la voix du DJ à travers les haut-parleurs. À présent, le battement des tambours électroniques était au diapason du rythme cardiaque de la foule. Un déluge de vibrations surgit de toutes parts. La musique changea de tempo et se transforma en un mouvement qui emporta la foule. Les rêveurs s'agitèrent en cadence. Au-dessus d'eux, le démon les contemplait. Ses yeux fous roulaient de droite à gauche comme s'il voulait transpercer chacun des danseurs. La transe allait durer 3 jours et 2 nuits, et peut-être plus, jusqu'à épuisement. Dans la tour, le DJ faisait corps avec ses claviers. Les fibres de son cerveau se connectaient au centre nerveux qui commandait les influx sonores. Il tiendrait jusqu'au bout de ses forces. La jeune femme, lissant ses cheveux d'une main gantée de dentelle, contemplait la masse en furie des rêveurs. Elle est là ? Elle a reçu une invitation, comme 6 autres personnes. Depuis que nous les avons identifiées, elles sont sous surveillance permanente. Toutes participent à la rave. L'identification n'a causé aucun problème. L'homme caressa son piercing mammaire sous le t-shirt, frappé à l'effigie du Che, relooké en folle de la Havane. Elles sont toutes nées un 17 janvier au centre de Bombay. Et quelle est la bonne ? On ne le sait pas encore. On a besoin de l'heure précise de la naissance et tu te doutes de la fiabilité de l'état civil en Inde, mais on devrait avoir le renseignement dans quelques minutes. La blonde gracile fixa du regard les vagues de danseurs en extase qui ondulaient sur le rythme syncopé de la musique électro. « Elle est là !» murmura-t-elle. Son compagnon alluma un ordinateur portable et pianota sur le clavier. « Regarde !» Une carte astronomique du ciel apparut. Des constellations se dessinèrent, Cassiopée, Orion, Andromède. Un point commença à scintiller en surbrillance, puis un second, un troisième, qui se joignirent pour former un triangle équilatéral. « Le triangle parfait, » annonça l'homme, « la conjonction d'Arcadie. Durant la dernière décennie du XXe siècle, elle ne s'est produite qu'une seule fois et n'a duré qu'une heure, le jour de leur naissance. » Une enveloppe clignotante surgit dans la barre d'outils. « Ça y est, on l'a !» Le mail apparut, laconique et définitif. Numéro 5, Indanita Ravegestan. L'homme tapa un code sur son portable et une diode verte commença de vibrer sur l'écran. « Sa balise GPS fonctionne. »«
Sa balise ?»«
Dissimulée dans le badge d'entrée. Allez, viens !» Le couple échangea un sourire complice et sortit de la cabine. Tous deux descendirent l'escalier de métal et passèrent la barrière des vigiles. Deux hommes au crâne rasé leur frayèrent un chemin au milieu de la foule extatique. Les danseurs étaient écartés sans ménagement. Le couple traversait le flot en souriant au milieu du déchaînement sonore. Le jeune homme brandit un portable où s'accélérait une balise lumineuse. Il regarda alentour et repéra enfin celle qu'il cherchait. Il fit un signe à l'un des gardes qui s'approcha d'une jeune indienne vêtue d'un sari rouge. Le garde murmura quelque chose à son oreille. Elle hocha la tête et s'approcha du couple. Autour d'eux, la masse compacte de la foule les pressait comme une rivière en crue, mais la jeune femme parvint à avancer. En un instant, l'indienne se retrouva collée au couple dont les visages rayonnaient. Alors qu'elle voulait répondre à leur sourire, une douleur brusque transperça sa main droite. Elle baissa la tête et vit sa paume traversée par une fine aiguille de métal. Le sang commençait à jaillir. Le jeune couple la regardait toujours avec ravissement. Elle hurla, et une nouvelle onde de douleur...